Un tango, une danse, un baiser.
Et du bout à pépé, t'es pépé.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent, Ne fais pas l'erreur de croire que tout désir est nostalgie. Nous regardons volontiers le bleu, non parce qu'il se hâte vers nous, mais parce qu'il nous attire, écrit Goethe. Et peut-être avait-il raison. Ça ne m'intéresse pas, la nostalgie d'un monde que j'habite déjà. Je ne veux pas non plus devenir nostalgique d'un objet bleu, ni Dieu m'en préserve, de ce qui est bleu. Je désire surtout que tu cesses de me manquer. C'est le 8e des 240 fragments qui composent votre livre Bleuet, Maggie Nelson, traduit par Céline Leroy pour les éditions du Sous-Sol et qui paraît en France après Une partie rouge et Les Argonautes. Dans ce livre où s'hybrident et se tressent récits, pensées philosophiques, pensées politiques, pensées poétiques, vous semblez fonctionner comme un aimant. Tout coagule vers des bleus sans être jamais certaine que leurs nuances puissent guérir du chagrin d'amour, de la maladie, des différentes douleurs existentielles ou juste aider un peu. Bleuet donc, paru aux éditions du Sous-Sol. Bonsoir à vous, Maggie Nelson. Soyez la bienvenue.
Bonsoir.
Et bonsoir à Ina Kang qui sera votre voix française de ce soir. Bonsoir Ina.
Cela me plaît de dire que j'écris un livre sur le bleu sans le faire pour de bon. En général, les gens réagissent en vous racontant des histoires, en offrant des pistes de recherche ou des cadeaux, ce qui vous permet de jouer avec ces choses-là plutôt qu'avec des mots. Ces 10 dernières années, j'ai reçu des encres, des tubes de peinture, des cartes postales, des teintures, des bracelets, des cailloux, des pierres précieuses, des aquarelles, des pigments, des presse-papiers, des gobelets et des bonbons bleus. On m'a présenté un homme qui s'est fait remplacer une dent de devant par du lapis-lazuli uniquement parce qu'il aimait cette pierre. Et un autre qui voue un tel culte au bleu qu'il refuse de manger des aliments de cette couleur et ne fait pousser que des fleurs bleues et blanches dans son jardin, autour de l'ancienne cathédrale bleue où il vit. J'ai rencontré le plus important cultivateur d'indigotiers biologiques du monde, ainsi qu'un homme qui chante « Blue » de Joni Mitchell dans un numéro de travesti à vous briser le cœur. Et un troisième, dont le visage ravagé pleure des larmes bleues, et lui, je l'ai appelé le prince du bleu, ce qui est en fait son nom. Oh, Cardis and Seed, suit, 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 suit.
Maggie Nelson, je le disais tout à l'heure, il y a donc 240 fragments dans ces bleuets et Romain de Bec de Lièvre vient de lire le fragment numéro 14. Avant qu'on discute de ce petit bout de texte, je voudrais que vous nous disiez le rapport que vous entretenez avec ce livre qui paraît en France là en 2019, mais qui est paru en anglais il y a 10 ans. Ça fait bizarre de parler d'un texte quand même 10 ans après sa première parution. Vous avez quoi comme lien avec ce livre-là maintenant ?
Glad to be here.
Je suis ravie d'être ici.
Thank you for having me.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
You know, 10 years goes fast.
Eh bien, 10 ans, ça passe vite, en fait.
It's a very different moment in a different
self. C'est un moment très différent, un soi très différent dans ce livre.
But at the same time, I feel very close to it.
Et en même temps, je m'en sens très proche d'une certaine façon. C'est un livre qui est cher à mon cœur.
And it's in the United States, they're putting out a
aux États-Unis, il y a une réédition du livre pour ses 10 ans. Puisque c'était une surprise, en fait, un petit livre qui a vraiment créé la surprise. Et qui a une certaine résonance dans une certaine communauté qui est passée de main en main et les gens l'ont adoré. Donc, au fur et à mesure des années, c'est devenu le livre que c'est maintenant. Donc, aux États-Unis, voilà, il y a cette réédition et c'est vraiment pas mal finalement que le livre sorte en France au même moment, comme une sorte de renaissance aux États-Unis également.
Vous dites que c'est un livre proche de votre cœur, sans rentrer trop dans l'intimité, mais ça veut dire quoi exactement, Maggie Nelson? Ça veut dire que c'est un texte auquel vous repensez? Ça veut dire que c'est un texte avec lequel vous vivez? Ça veut dire que vous êtes encore un petit peu avec toutes ces nuances de bleu qui sont décrites dans ces fragments?
Oui, alors, malheureusement,
my obsession with blue, the
mon obsession du bleu.
It was like the book kind of bookended it. Like
eh bien, finalement, ce livre y a mis un terme, donc je ne me sens plus exactement de la même façon qu'auparavant. Mais je me sens toujours proche de ce livre.
Well, this might sound like something writers don't usually say, but
c'est quelque chose que peut-être les auteurs ne disent pas généralement.
I really believed in this book when I wrote it. I thought it was a good
J'ai vraiment cru
book. It was my favorite
dans
of
ce
my
livre
books
quand
I've
je l'ai écrit. C'était vraiment mon livre préféré. Je pensais que c'était un bon livre, mais personne ne voulait le publier aux États-Unis. Donc je l'ai mis dans une boîte pendant une année et j'avais toujours l'impression que c'était un bon livre. Même s'il fallait que j'aille le trouver dans cette boîte. Et au bout du compte, je l'ai donné à Small Press, donc aux États-Unis. Et j'aime beaucoup cette maison d'édition. C'est quelque chose qui est assez commun en France. Donc eux, ils ne mettent pas d'illustrations sur le livre, sur la couverture, mais aux États-Unis, c'est beaucoup moins fréquent. Donc, il n'y a pas de fioritures, pas de photos de l'auteur non plus, pas de critiques, c'est tout simple, exactement comme la version française, en fait. Et je voulais que ce soit un livre qui soit simple. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis allée pour cette maison d'édition. J'ai adoré l'apparence du livre, ils ont vraiment fait un super travail. Ensuite, les choses ont décollé, vraiment.
Gratification that something I had felt was a well realized book.
C'était vraiment un livre qui a été bien réalisé.
Especially because it's a book about
solitude. Les gens y ont trouvé des choses. C'est un livre qui parle de la solitude.
It had a very solitary beginning and kind of a purgatory.
Le début est très solitaire et puis ensuite finalement ça a touché beaucoup de gens, donc c'était très bien.
Dans le fragment qu'a lu Romain, vous expliquez que pendant des années, finalement, vous avez répondu à la question « Mais qu'est-ce que tu es en train d'écrire, Maggie ? Je suis en train d'écrire un livre sur le bleu, sans réellement être en train de le faire. » Ça a duré combien de temps, le fait de répondre ça, et de pas vraiment le faire, mais du coup d'avoir comme une place en vous, Maggie Nelson, pour un livre qui se faisait sans écriture, d'une certaine manière ?
The funny thing is, it wasn't really a lie.
Ce qui est drôle, en fait, c'est que ce n'est pas vraiment un mensonge.
Quand
on collecte des ressources pour un livre, même si on n'écrit pas, on est quand même en train de faire le livre. Donc j'ai collectionné des objets bleus pour l'écriture pendant un certain temps.
When I started writing, all my books have a different
form,
so it was
commencé à écrire, bon, tous mes livres ont une forme différente et je me suis posé la question, quelle va être la forme de ce livre-ci en particulier? Est-ce que ça va être des poèmes, quelque chose de plus universitaire, une méditation, qui sait?
I wrote many pieces of the book
Donc j'ai écrit
for many years, but it wasn't
des petits morceaux du livre pendant plusieurs années.
I made peace with the fact that it would be a kind of heartbreak book.
Il a fallu que j'en vienne au fait que ça allait être un livre sur un chagrin d'amour et l'accident d'une amie à moi, des choses qui dominaient ma vie lorsque j'ai écrit, que finalement j'ai enfin réussi à me poser et je l'ai écrit en l'espace d'une année.
Il y a eu un moment donné dans l'écriture ou dans ce que j'essayais de décrire tout à l'heure comme ça, d'état, d'être démenter les choses, d'appeler les choses à soi. Il y a eu un moment où vous n'avez vu que du bleu joyeux, un bel azur, où il a tout de suite été ce bleu de Mallarmé qui écrit après une certaine période de rien, ce bleu du blues, ce bleu du chagrin, ce bleu de la maladie et de la mort qui arrive. Il a tout de suite été ce bleu-là pour vous, Maggie Nelson.
Well, I had many blue things I collected.
J'ai eu beaucoup de choses bleues.
For many days when I would go to work writing, I would just write the story of each blue thing.
Quand j'allais au travail, donc je travaillais et j'écrivais l'histoire de beaucoup de choses bleues. Parfois, c'était des choses joyeuses, parfois il y avait des choses tristes derrière tout cela.
But I wanted the book to be about beauty.
Mais je voulais que le livre parle de la beauté et du plaisir. J'avais écrit deux livres avant celui-là qui parlaient de la violence et d'un meurtre au sein de ma famille, donc des livres très sombres. Et je me suis dit que ce livre-là serait comme un antidote. Mais effectivement, c'était un petit peu sombre aussi.
Et c'est aussi un livre, on y viendra plus en détail, Maggie Nelson, sur l'écriture, sur la surprise, plus ou moins surprise, de la présence du bleu chez certains poètes, chez certains penseurs, chez certains peintres. Je citais par exemple Mallarmé, mais c'est vrai que vous citez Mallarmé, puis Goethe aussi, des hommes qui ont eu un attachement au bleu après des sortes de périodes de suspension, des périodes de rien, des périodes de vacances mentales comme ça, de conception pure. Et au milieu de cette espèce de vide, c'est inviter le bleu. Est-ce que vous diriez, Maggie Nelson, ça s'est un peu passé de la même manière pour vous?
Non,
je crois que dans le livre, je raconte l'histoire d'oiseaux absolument incroyables, qui ramassent des choses bleues et qui en font un nid. Une sorte de nid, en fait, pour pouvoir attirer leurs congénères. Donc, ils collectionnent des baies, différents objets bleus, et puis ensuite, voilà. J'ai décidé de parler de ces oiseaux dans ce livre puisque c'était un petit peu ce qui se passait pour moi. Je collectionnais ces beaux objets bleus et j'essayais d'en tirer une belle écriture. Mais comme j'ai eu le cœur brisé, je faisais en quelque sorte cette petite danse un petit peu seule. Et je n'attirais personne, à moins peut-être un lecteur, mais c'était surtout moi qui me faisais plaisir à moi-même avec cette langue.
Mais vous avez été surprise de trouver cette récurrence du bleu, justement, dans l'histoire de l'art, de la pensée ou de la poésie? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous saviez déjà en commençant ce projet?
Eh bien, chaque couleur a une histoire. Bien sûr, je pense que l'histoire du bleu est plus littéraire que d'autres, mais ce n'est peut-être pas vrai. En tout cas, il y a différents auteurs. Il y a un petit livre par... un livre qui s'appelle Chromophobia, par un auteur anglais que j'aime beaucoup. Et donc, il y a la question du bleu et la question de la chromophobie. Et donc, David Batchelor, l'auteur, parle de la chromophobie, donc le fait qu'une couleur soit associée à la femme, aux homosexuels, à l'extrême-orient, et le bleu plus particulièrement est une couleur démoniaque, et à certains moments de l'histoire, ils ont commencé à peindre la Vierge Marie en bleu, et c'est soudainement devenu une couleur, la couleur du divin, en fait. Donc, toute cette histoire m'a beaucoup intéressée, et j'ai lu beaucoup de livres sur la couleur en général. Et il y a de très bons livres sur la couleur bleue, mais il y a beaucoup de personnes, on en a entendu parler, Johnny Mitchell, Mallarmé, tout un tas de gens qui ont écrit sur cette couleur. Et aux États-Unis, bien sûr, donc le blues, c'est un genre musical très important, donc l'association du chagrin et de la joie.
J'aime beaucoup commencer. J'ai un plaisir d'invention à trouver ou à faire l'attaque d'un paragraphe, l'attaque d'un fragment. J'aime bien commencer, j'aime bien rompre, j'aime bien imaginer la rupture avec le rien qui précède, Alors, évidemment, en multipliant les fragments, je multiplie les plaisirs d'attaque. Parce que, finalement, mes fragments, en tout cas les fragments idéaux que je voudrais produire, ne seraient pas tellement extravagants. Je veux dire, ce qu'on appelle le fragment, c'est quelque chose qui a des contours très irréguliers. C'est parce que ce qu'on appelle en mathématiques les objets fractales ou fractaux, ce sont des objets déchiquetés comme... les côtes de la Bretagne, on donne toujours ça en exemple, les côtes du littoral breton. Or, en réalité, j'aimerais beaucoup des fragments qui auraient un certain calibre, une certaine dimension, une certaine régularité. Mais ce qui me plaît, encore une fois, c'est l'interruption. C'est ça qui me plaît. Et aussi la fin, dans la mesure où la fin du fragment pose un problème de composition, disons, intéressant, à savoir que il faut bien finir le fragment sans le finir sur un coup de trompette.
C'est une archive de Roland Barthes, dont je ne suis pas en mesure de vous donner la date, malheureusement, parce qu'on ne l'a pas retrouvée, Maggie Nelson. Mais peut-être pour parler plus avant de la forme qu'a ce livre-là, Bleuet, vous disiez tout à l'heure, finalement, chacun de mes livres a une forme différente. Et c'est aussi, à un moment donné, la décision de les faire exister dans ces formes-là qu'il fait exister tout court. Il se trouve que Roland Barthes était déjà présent dans les Argonautes, que c'est déjà un nom qu'on a vu circuler. Il occupe quoi comme place dans votre esprit, dans vos lectures, dans vos intérêts, Maggie Nelson?
Quite huge.
Une place très importante.
I agree with everything that
je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire.
I think that his own search for form in the books,
sa propre recherche de forme dans ses livres. On pense au fragment d'un discours amoureux ou d'autres livres.
Very influential to me.
Eh bien, ça a été une très grande influence pour moi.
Even his lectures, like the neutral.
Et même ses conférences.
Every book has inspired.
Tous ses livres
a book of mine in some way, the neutral was
ont eu une influence sur les miens. Donc, ça a été le cas pour The Art of Cruelty,
Roland Barthes. Was very important for the Argonauts.
Ça a été très important pour les Argonautes.
When I wrote this book, I was teaching,
ce livre, Bleuet,
I'm a professor,
où je suis
professeur
à l'université, j'ai fait un cours sur les fragments, sur l'histoire de la composition.
Then as well, I think that
sometimes bien sûr, Barthes en a beaucoup parlé.
Books,
parfois,
he is more,
dans certains de ses livres, pas toujours, mais parfois,
to,
il est un peu plus ouvert
au
hasard, comme structure en général. Donc, il écrit tous ses fragments et il va les combiner de façon alphabétique ou sur la base du titre du fragment,
book,
par exemple.
It took a while for me to understand or
ça m'a pris un certain temps de comprendre que mon livre allait être une sorte de récit qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Ça pouvait commencer comme un collage, mais finalement, ça s'est éloigné de cette forme. C'est là où les chiffres sont rentrés en jeu. C'était un hommage. Également, cela montrait que l'on avançait. Donc, une sorte de mélange poétique d'histoire. C'était vraiment pour propulser le livre vers l'avant.
Vous aviez l'impression qu'il avait besoin d'un moteur comme ça, presque d'un moteur mathématique où il faut dire 1, 2, 3 jusqu'à 240 pour que presque il continue de s'écrire avec vous, Maggie Nelson.
Yeah, the book. Eventually, actually, it's funny that you say that.
En fait, c'est amusant que vous disiez ça.
It did feel a little bit like mathematic to me.
Effectivement, j'avais ce sentiment un petit peu mathématique
a certain number of
par
themes,
rapport au livre.
Point, you know, I wrote on
il y a
my
eu un certain nombre
you know,
de thèmes que j'ai écrits, comme par exemple la mort,
color, sex,
la couleur,
alcohol,
le sexe, l'alcool.
Problems of perception,
la perception, toutes les questions
divinity.
De perception,
anyway,
la divinité,
maybe,
etc.
half dozen to a dozen topics.
Il y avait une bonne dizaine de sujets. Et à un certain moment, il fallait donc que ces thèmes reviennent à certains intervalles. Pour que j'en dise pas, bon, mais je croyais que ce livre allait parler du bleu. Pourquoi est-ce qu'on parle de Dieu maintenant? Donc il fallait qu'il y ait un certain rythme qui permette au livre d'avancer.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Ruchot avec Maggie Nelson.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily. And you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see James away.
58. L'amour est une chose si laide que l'humanité en mourrait si les amants pouvaient voir ce qu'ils font. Léonard de Vinci. 59. Il y a ceux qui, toutefois, aiment regarder. Et peut-être que nous n'entendons pas assez parler du regard féminin, sa brûlure, les yeux cette fois toujours bien logés dans leur tête. J'adore contempler de loin la bite prometteuse, écrit Catherine Millet dans ses magnifiques mémoires sexuelles, avant d'enchaîner et d'expliquer qu'elle aime aussi regarder le cratère brunâtre du trou du cul et la vallée cramoisie de la vulve, l'un et l'autre béants, leur couleur mise à nu, prêts pour le sexe. 60. Moi aussi j'aime regarder. Sainte Lucie, tu n'as pas dissimulé ta lumière sous un panier, dit une prière catholique. 61. Dans son livre On Being Blue, William Gass soutient que ce que nous autres lecteurs cherchons vraiment est la pénétration de l'intimité. Nous voulons regarder sous les jupes. Mais cette pénétration finit par être fatigante, même pour lui. Quel est l'intérêt d'apercevoir ses poils pubiens si je dois aussi voir les marques rouges laissées par sa culotte, les boutons sur son derrière, les veines brisées comme l'empreinte d'un pouce lavande, l'aspect éculé d'une touffe en fin de vie? J'ai ça à la maison. Après avoir affirmé que le bleu que nous attendons de la vie ne se trouve en fait que dans la fiction, il conseille à l'écrivain d'abandonner le bleu de ce monde pour lui préférer les mots qui le disent. 62. Ce qui est du puritanisme, pas de l'éros. Pour ma part, ça ne m'intéresse pas de ne faire qu'apercevoir ou offrir un cul lisse ou un con bien peigné. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir trois orifices comblés par une grosse queue veinée, et ce, dans les poses ou sous les lumières les plus ingrates. Je ne choisirai pas entre le bleu du monde et les mots qui le disent. Autant chauffer tout de suite le tison et préparer vos yeux pour l'autel. Tant pis pour vous.
Ce dont on crève, c'est de l'idée de l'amour, parce que l'idée de l'amour, elle est beaucoup plus forte que la matérialisation de l'amour. Après, on souffre de la perte d'amour, mais de la perte de ce sentiment essentiel qui vous semble éternel et qu'on pose sur une personne, mais on le pose sur n'importe qui. Et on est toujours un peu conscient que c'est n'importe qui, que c'était pas, et que c'est évidemment pas la bonne personne, c'est que c'est pas la personne idéale. On s'en sert quand même, parce qu'une fois qu'on a quand même réussi à mettre la décalcomanie sur quelqu'un, il faut absolument que la personne reste le support. Sinon, on est comme un mur sur lequel il y a de la peinture. Si le mur s'effondre, la peinture n'est rien. Voilà, c'est l'histoire des fresques de Florence, finalement. C'est à Florence, oui, que ça s'est effondré, les murs, et tout d'un coup, on voit bien que les peintures s'effondrent aussi. Ben c'est ça, l'amour, c'est cette espèce d'illusion qu'il faut essayer de prendre, de faire prendre corps autour de n'importe qui, mais qu'on part comme ça de quelque chose qui est notre idéal. Et puis je crois qu'on est aussi dans une société qui veut absolument qu'on masque sur le mot d'amour ce qui est tout simplement la pulsion, les pulsions sexuelles. Donc dès qu'on est très très attiré par quelqu'un, on va dire que c'est un coup de foudre, que c'est de l'amour. Mais en réalité, c'est une pulsion sexuelle qu'on ne veut pas appeler comme ça, parce que ça nous ferait du mal. Et comme on l'appelle amour, ensuite on fonce dans un piège. Parce que cette personne qu'on prétend aimer, c'est que les phéronomes et tout ça qui nous a liés à elle. C'est aucunement sa connaissance, c'est simplement le désir qu'on en a.
Une archive de Catherine Breillat, 1999, la réalisatrice qui a quelques pensées sur l'amour, comme une grande illusion qu'on plaque notamment sur le désir sexuel. Maggie Nelson, juste avant, je lisais quelques fragments de Bleuet qui disent, ou en tout cas dans lesquels vous dites que vous ne voulez pas choisir entre le bleu du monde et les mots qui disent le bleu du monde, façon d'affirmer un certain rapport à la littérature et à la crudité de cette littérature. C'est toujours le cas. 10 ans après avoir écrit ce livre.
Yes, I think so very much. I mean, I think
oui, effectivement, tout à fait.
The reason why I pick out that passage that you read so well from William Gass.
La raison que pour laquelle j'ai choisi cet extrait que vous avez lu, donc William Gass.
It's a very traditional idea.
C'est une idée très traditionnelle.
Well, if you really want to get into it, it's actually a very traditional
pour être tout à fait,
male idea from the
honnête, en fait, donc cette idée depuis le début de la poésie. Dans les mythes grecs, j'espère que je ne me trompe pas en disant cela, mais Apollon essayait de violer Daphné, elle ne voulait pas être violée par lui, donc elle s'est transformée en arbre, et en prix de consolation, il a pris les lauriers et il a tressé une couronne qui est finalement devenue le symbole du poète. Donc c'est une idée très ancienne. Et William Gass traite de cette idée, à savoir que la littérature, c'est comme un prix de consolation pour une femme idéale que l'on ne peut pas avoir. Et donc, lorsqu'il dit, voilà, moi j'ai tout ça à la maison, il y a une sorte de dégoût du monde réel. L'idée que la sublimation se retrouve dans la littérature, donc cette femme idéale. Et dans la citation que vous venez de diffuser, c'est un petit peu la même idée. Donc, lorsque Breillat parle de l'amour en général, c'est une idée intéressante. Mais vous me demandez si je pense toujours ce que j'ai écrit dans mon livre. Oui, je pense.
ridiculous to imagine that one has to choose.
Je crois que c'est un peu ridicule d'imaginer qu'il faut choisir.
As per the story about Apollo and Daphne, kind of a rotten root.
Et effectivement, il y a une sorte de racine un petit peu pourrie, comme pour Apollon et Daphné.
Ça veut dire qu'en tout cas, vous, vous continuez de penser qu'il est possible de dire une forme de réalité du monde par la littérature et que c'est à ça qu'il faut travailler en tant qu'auteur?
Non, en fait, ce serait plutôt le contraire.
Hein.
Il y a la littérature et il y a la vie qui vont se croiser à un moment, mais le livre n'est pas le souvenir de la vie vécue, c'est une autre partie de la vie. Ce n'est pas tout non plus. Au début de mon livre, j'explique que j'écris un livre sur la couleur bleue, car sinon j'ai l'impression que ma vie ressemblerait à des cendres qui tombent d'une cigarette et que finalement elle se résumera à rien. Il peut y avoir des moments où l'on a l'impression que ce livre est une sorte de souvenir de la vie vécue. Mais moi j'aime bien vivre également en fait.
Et puis de toute façon, vous écrivez aussi, Maggie Nelson, je ne me souviens plus exactement la précision de la citation, mais que la baisse comme l'écriture ne change rien à la vie. Et que finalement, on peut à la fois faire l'amour et on peut à la fois écrire des livres. Il y a quelque chose du réel qui est comme intouché de ça.
Oui, donc cette citation sur la baise dans le livre, je dis que la baise ne change rien finalement, qu'elle laisse tout en l'état. C'est une citation de Wittgenstein. Mais lui, il parle de la philosophie au lieu de la baise. Donc il dit que la philosophie laisse tout en l'état et qu'elle ne change rien, que le monde reste intact. C'était une petite expérimentation que j'ai faite. J'ai remplacé philosophie par baise. Et ce livre, en fait, d'une certaine façon, c'est un hommage à la philosophie de Wittgenstein. Et Wittgenstein était un autre philosophe qui avait quelques problèmes avec le corps et la vie réelle, la vie vécue. C'était un homosexuel qui se détestait. Et qui avait vraiment tendance à s'autoflageller. Sa philosophie est remplie de questions. Donc, si ma main droite donne de l'argent à ma main gauche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un chien peut sentir de la douleur? Donc, toutes ces questions-là, il les a fait passer par le prisme du corps, en fait, un corps asexué. Donc, pour moi, c'était comme une sorte de plaisanterie, une plaisanterie un peu sérieuse tout au long de ce livre, pour parler de cette femme désirante dans ce discours. Mais il y a une partie un petit peu plus tard dans le livre où la narratrice, qui a le cœur brisé, voit sa thérapeute et la thérapeute dit exactement la même chose que ce que vous avez diffusé. Ce n'est pas vraiment de l'amour. Vous avez pris ce sentiment qui était le vôtre et vous l'avez placé sur un objet qui n'en valait vraiment pas la peine. Et donc la narratrice se dit, mais si ce n'était pas de l'amour, alors j'étais tellement certaine que c'était de l'amour, mais qu'est-ce que c'était? Et donc, vous pourriez dire, comme me disaient les archives, bon, c'était du désir, mais je crois que dans ce livre, l'idée de l'amour est associée à l'idée de la couleur, puisque la plupart des théoriciens de la couleur disent que les objets n'ont pas de couleur. La couleur, en fait, c'est ce que l'on ressent en tant qu'humain à partir d'une onde, mais une abeille va voir une couleur rouge d'une façon différente de vous, par exemple. Donc il y a un parallèle. Est-ce que c'est quelque chose qui existe indépendamment de nos projections? Dans les deux cas, l'abeille voit ce qu'elle voit et nous, on voit ce qu'on voit.
in some ways, I think it can be healing if you've loved somebody.
D'une certaine façon, ça peut vraiment vous réconforter si vous étiez amoureux de quelqu'un qui n'en valait vraiment pas la peine. C'était de l'amour très mal placé, en fait. Mais les choses ne sont pas aussi tranchées dans le livre. C'est-à-dire qu'on reconnaît que ça peut être un réconfort. Et en même temps, on peut se dire, bon, bah, j'aimais cette personne. Il n'y a pas d'explication à donner. Ce n'était pas forcément une belle histoire, mais voilà, je ne veux pas ne pas appeler ça de l'amour.
D'ailleurs, la narratrice, je ne sais pas si c'est exactement suite à ce rendez-vous avec la thérapeute ou dans un autre fragment du livre, dit « Mais bon, ok, de toute façon, j'ai du chagrin en fait. Et si énoncer le problème n'enlève pas le problème, à quoi bon énoncer le problème ? Je suis avec mon chagrin. » C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a comme une sorte d'ambition de l'écriture dans ce texte-là, Bleuet, Maggie Nelson, qui a tendance à quand même dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Comme si c'était ça, en fait. Comme on décrit bien une couleur, eh ben, il s'agirait de bien décrire la vie, de bien décrire le chagrin, de précisément décrire la baise, enfin voilà, de décrire, en fait, de dire les formes de la vie, les formes du chagrin, les formes de la beauté, les formes de l'amour.
Yeah, well, you know, the...
Oui, alors.
Beginning part about Mallarmé, about what you were talking about, where he kind of gives up.
Au début du livre, je cite Mallarmé, vous l'avez cité. Il parle de l'azur.
And to me, that gesture was very similar to saying,
ce geste.
You know, the Buddha saying, someone says, how do you know you just became enlightened? You know,
un petit peu lorsque on dit au Bouddha, comment sais-tu, comment es-tu arrivé là, en fait? Et le Bouddha va toucher la terre et va dire que la terre est son témoin. Donc de dire que la terre, c'est son témoin, c'est un système tout à fait particulier.
There are several words in the book, like I do
il y a plusieurs parties dans le livre. Je parle d'Apollinaire un petit peu. Donc, Apollinaire qui utilise un mot français, il ne veut pas appeler son livre eau de vie, mais alcool. Donc finalement, on se retrouve dans une situation de déflation séculaire, ce qui reste après le sentiment très fort de s'être senti en vie. Lorsqu'on a recours à ces forces extraterrestres d'une certaine façon.
Puisque vous parlez de Wittgenstein et de tous ses auteurs, Maggie Nelson, peut-être revenir à la phrase qui est en exergue en français dans le texte, donc dans l'édition française. « Et quand cela serait vrai, virgule, nous n'estimons pas que toute la philosophie vaille une heure de peine. » C'est une phrase de Blaise Pascal dans les « Pensées ». Alors, qu'est-ce qui vaudrait une heure de peine ?
I don't know. I think
je ne sais pas.
Pain and value is a contested question.
I think I chose la douleur, la souffrance et sa valeur, c'est un vaste sujet. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette citation ?
Eh bien,
la question qui me taraudait lorsque j'écrivais ce livre, c'était voilà, dans le contexte de la dépression, d'un traumatisme, de la douleur. Quelle est la valeur d'une expérience extatique ? Est-ce que la beauté peut nous sauver ? Rien ne peut nous sauver.
Mais
je crois que ce qui m'a intéressée,
viewer and critic on art and other things,
c'est
as to,
tant
you know, what we go to
personne,
for sustenance and that feels like it saves our life. It doesn't have to be beauty.
Bien, qu'est-ce
it could
qui
be
peut nous sauver
ugly,
dans notre vie? Ça n'a pas forcément besoin d'être beau. Ça peut être quelque chose de très laid.
More about attentiveness, I guess,
mais il s'agit d'être attentif
like,
à ce qui existe. La curiosité, c'est quelque chose qui nous aide.
Mais pour autant, il y a comme une sorte de malentendu, parce que vous décrivez aussi une narratrice qui, juste avant un cours de littérature sur la prosodie, se demande pourquoi tout ça ne console pas. Se demande pourquoi ça ne l'empêche pas de pleurer toutes les larmes de son corps, alors qu'elle est plongée dans la littérature, qu'elle aime tant ça, et que l'art est aussi l'une des lumières de son existence. Est-ce que vous avez une réponse à ça, Maggie Nelson ?
Non, I mean, the book has.
Non, alors en fait.
It has several suicides in it, and several
dans ce livre, il y a plusieurs suicides des personnes qui disparaissent. Donc on parle de Virginia Woolf, par exemple, Marguerite Duras.
Donc ce n'était pas un
suicide, mais en tout cas, il y a eu une sorte de fuite mentale.
The book is also very concerned with,
et c'est un livre qui s'intéresse également au moment de renoncement. Quand j'écrivais ce livre et que j'étais très malheureuse, à un moment, je me suis demandé, bon, je dis qu'effectivement l'écriture ne change rien, mais que ça permet de tuer le temps. Même les psychologues qui traitent des questions de suicide disent qu'il y a parfois une période de 90 minutes de danger intense après que quelqu'un a été viré de son travail ou après avoir découvert que son conjoint est infidèle. Aux États-Unis, vous le savez, il y a beaucoup d'armes et il y a un mouvement qui vise à faire comprendre aux gens de comprendre que dans ces 90 minutes, finalement, est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on va mourir, ce qui va tout faire basculer, c'est s'il y a une arme à feu dans la maison. Bon, ce que je veux dire, c'est que l'écriture, ça ne change rien, mais parfois, tuer le temps, c'est une bonne chose à faire. Mais parfois, il faut travailler sur un projet, en fait.
Vous voulez dire qu'on peut, on peut gagner une heure et demie, par exemple, en écrivant ?
Exactly. Yes, exactly. Or longer,
oui,
because writing takes a long
plus,
time.
Yes, puisque exactly. Écrire, ça no prend du temps. Pas d'armes dans la maison, yes. Et puis toujours un projet d'écriture.
C'est aussi un paragraphe, celui qui se termine par tuer le temps, justement, où vous expliquez que l'écriture est niveleuse, que vous auriez très bien pu écrire tel fragment complètement bourré et tel fragment complètement sobre, mais qu'après l'avoir retravaillé, après les faire exister, ces 240 fragments dans un seul et même livre, d'une certaine manière, ça fait un horizon commun à tous ces bouts de texte et on peut oublier le degré d'alcool qu'il pouvait y avoir dans les veines de cette narratrice. En fait, c'est assez intéressant, Maggie Nelson, parce qu'à vous écouter, vous donnez beaucoup de puissance à l'écriture et beaucoup d'impuissance.
Oui, les deux sont vrais, en fait. Il y a beaucoup de choses que je dis dans ce livre et dans Une partie rouge, un autre de mes livres. Parfois, j'écris contre l'idée de l'écriture en tant que catharsis. Et ça, c'est pendant l'écriture. Une fois que le livre est paru, je vois beaucoup plus clairement ce que l'écriture du livre a permis pour moi. Lorsqu'on a un chagrin, lorsqu'on est en deuil, le temps ne fait pas tout, mais ça peut jouer quand même. Et donc parfois, pour moi, l'écriture, ce n'est pas vraiment une catharsis, mais je finis par épuiser le sujet. Et par le biais de cet épuisement, eh bien, il y a la curiosité pour un nouveau projet qui naît. Donc finalement, on en a marre, on en a assez de la même histoire, de toujours penser à la même personne, mais ça prend du temps. Ce que vous avez dit sur mes sentiments un petit peu contradictoires sur l'écriture, eh bien, en ce qui concerne mes livres, certains d'entre eux sont un peu autobiographiques, la narratrice va essayer certaines choses, faire des expériences. Ce ne sont pas forcément des déclarations que je voudrais défendre, pour lesquelles je voudrais argumenter.
Et c'est probablement pour ça que ces deux derniers fragments que je vais lire me semblent illustrer tout ce que vous venez de dire. 239, voilà que tu parles de l'amour comme si c'était une consolation. Simone Veil nous a pourtant prévenu, l'amour n'est pas une consolation, il est lumière. 240, mais d'accord. Je vais tenter de le formuler autrement. Quand j'étais en vie, je n'aspirais pas à étudier la nostalgie, mais la lumière.
Got them bad. She so sad.
Bien sûr, on peut avoir le blues et rester en vie, au moins pendant un certain temps. Être productif, même. La consolation de toujours. Voir, par exemple, Lady Sings the Blues. She's got them bad, she feels so sad, wants the world to know just what her blues is all about. Elle est très affectée, se sent si affligée, voudrait que le monde sache. Quel est ce blues qui la tient sans relâche? Il n'en reste pas moins, et Billie Holiday était bien placée pour le savoir, qu'avoir des teintes de bleu toujours plus foncées, on finit par s'enfoncer dans les ténèbres. 137. Billie Holiday n'est pas très claire quand elle chante. But now the world will know, she's never gonna sing him no more, no more. Le monde saura désormais qu'elle ne le chantera plus jamais, jamais. Ce qui n'est pas clair. Va-t-elle passer à autre chose, se taire ou mourir? Ce qui n'est pas clair non plus, l'origine de son triomphe. 143. Vers la fin de sa courte vie, elle est morte à 44 ans, beaucoup disaient de Billie Holiday que sa voix était ravagée par la drogue, l'alcool, les abus et le chagrin. Sans avoir été junkie, Joni Mitchell se voit elle aussi invariablement affublée de l'épithète « ravagée ». Si un pépin de santé ne parvient pas à vous faire arrêter la cigarette, la voix rauque et ravagée par la nicotine d'une Joni Mitchell jadis angélique devrait être dissuasive, a récemment écrit un critique. La voix de Mitchell n'est plus que l'ombre du timbre léger comme l'air qui a fait sa gloire et reflète à quel point sa joyeuse espièglerie a sombré dans un cruel mécontentement. 144. Mais peut-être qu'en effet la dépression ressemble à un feu. Au noyau bleu de la flamme, et non à l'orange théâtral du crépitement. J'ai passé beaucoup de temps à contempler ce noyau dans ma propre chambre noire, et je peux affirmer qu'il offre un parfait exemple de la façon dont le bleu laisse place aux ténèbres, et dont les ténèbres, à l'improviste, font émerger un cône de lumière.
La voix de Billie Holiday et vos mots, Maggie Nelson, traduit par Céline Leroy, d'autres fragments de vos bleuets. Et en écoutant la fin de la lecture de Romain de Bec-de-Lièvre, je voyais cette espèce de cône de lumière au bout de la cigarette, puisque vous disiez tout à l'heure, finalement, écrire ce livre, c'était échapper de se retrouver comme des cendres de cigarette, comme le néant. Et en fait, ce passage dit que, en fait, avant le néant, il y a le cône incandescent de la clope et qu'il y a ça, en fait, dans les choses qui tombent, avant que les choses ne tombent. Mais pour en revenir à Billie Holiday, et comme on croise beaucoup de chansons, beaucoup de chanteuses, beaucoup de chanteurs dans ce disque-là, je voulais savoir quelle était leur place et quelle avait été leur place à tous ces gens-là pendant que vous écriviez le livre.
Well, I'm so glad that I put them in so that we could hear them again here today.
Pour qu'on puisse les réentendre ici aujourd'hui, ils sont vraiment formidables, n'est-ce pas?
It's great to hear.
C'est génial de les entendre.
I love music, but
j'adore la
I
musique.
I don't write with any music or anything.
Mais je n'écris pas en écoutant de la musique.
Some writers I know.
Je sais qu'il y a certains auteurs qui vraiment carburent au rock toute la journée. Marlon James, je crois, écrit avec de la musique très forte. J'ai du mal à imaginer. Mais il y a des chansons particulières, des moments particuliers. Évidemment, le bleu, c'est toujours très important. Et puis le passage que vous avez lu sur Joni Mitchell et Billie Holiday.
The book is also kind of making a little matrix of women,
le livre parle de différentes femmes, notamment des femmes vieillissantes. C'est comme un peu ce que disait William Gass.
Disgust and sorrow.
Cette espèce de dégoût par rapport aux femmes. Elles étaient si jeunes et si fraîches, et maintenant elles sont vieilles, elles ont des voix et des visages ravagés.
You know, I think a different attitude in the face of that is entirely possible, and the book is very interesting.
Une attitude différente, tout à fait possible. Et je crois que ce qui est intéressant, en fait, dans ce livre, c'est peut-être quelque chose d'un peu morbide. Regarder quelqu'un vieillir, regarder la dépression, pas forcément comme une dégradation. Il y a une scène où la narratrice se regarde pleurer elle-même dans un miroir et elle voit son visage vieillir en temps réel. Et ça la surprend énormément. Donc ce livre explique qu'il faut être se laisser surprendre, être surpris de la dégradation, de la détérioration de la beauté de la jeunesse.
Et aussi se laisser surprendre par la manière dont surgit un cône de lumière dans les ténèbres. Ce que vous dites à l'instant, Maggie Nelson, de visage ou de corps vieillissant de femme, finalement, on peut aussi l'appliquer à ce que c'est qu'une histoire d'amour ou ce que c'est qu'une histoire de désir sexuel. C'est comme si c'était aussi un texte qui se demandait comment ça peut vieillir, en fait. Comment ça peut vieillir ou s'arrêter brusquement l'amour pour quelqu'un. Et comment on peut regarder ça? Ce serait en fait regarder une histoire d'amour se rider d'une certaine manière.
Yeah, I mean, I like part of why I like the capsule on this book
plaît,
is
en
that,
fait,
you know, the story it tells. I mean, both of the lost lover, but also
l'histoire qui est racontée dans ce livre, donc cet amoureux, cet amant, et puis l'ami qui a été blessé. Donc ces deux personnes sont toujours en vie. Et,
life has gone on, you know. So,
et en ce qui concerne mes sentiments pour ces personnes, la vie continue.
You know, very fascinating to make a book a time capsule of
c'est vraiment intéressant de faire d'un livre une sorte de capsule du temps. Et ensuite, on voit les choses vieillir petit à petit.
You know, my friend had this catastrophic accident.
En ce qui concerne mon amie, elle a subi cet accident catastrophique qui l'a laissée paralysée donc lors de son 55e anniversaire. Maintenant, elle a 65 ans. Donc, elle a vécu depuis plusieurs années dans cet état-là. Et ce livre a été écrit au moment de l'accident. Donc, pour moi, c'est très intéressant également.
Qui suis-je? C'est une bonne question parce que je suis beaucoup de personnes. Je suis un être pulvérisé. Vous connaissez sans doute ce mot que j'ai inventé qui s'appelle « moi nous ». Moi nous, c'est un personnage qui apparaît pour la première fois dans mon roman « Mère Eldorado ». Il meurt, je le ressuscite parce qu'il était « moi et nous ». Mais c'est non seulement « moi nous ». J'ai une amie qui, une fois, a fait un très beau texte sur moi pour expliquer qui est ce « moi nous ». « Moi nous », elle dit, c'est le petit garçon qui est resté en toi. Et il y a ce petit côté petit garçon qu'on retrouve dans Retour au fumier, c'est ce petit garçon-là. Mais il y a aussi, chez Federman, il y a le professeur émérite à la retraite maintenant, le joueur de golf, le musicien de jazz, le gars qui a travaillé dans des usines un peu partout en Amérique, le parachutiste. Je suis tous ces gens-là. Et en même temps, fils d'un prolétaire, enfin très pauvre, je vis comme un très bon bourgeois en Californie, une très belle maison. Voilà. Alors je suis tout cela. Mais quand je m'enferme dans ma chambre pour écrire, je suis une seule personne. Je suis l'écrivain que vous avez devant vous maintenant.
Les entretiens à voix nue avec Raymond Federman, Maggie Nelson. Vous disiez tout à l'heure, Bleuet, je l'ai écrit dans une profonde solitude et ensuite c'est un livre qui a rencontré plein de gens, qui a circulé dans une certaine communauté, qui 10 ans après est traduit en français et paraît donc aux éditions Sous-Sol. C'est vraiment ce trajet du moi vers le nous, mais peut-être au-delà même du livre Bleuet, pour faire écho à ce que vient de dire Federman. Est-ce que vous sentez comme ça, puisque vous utilisez de la matière autobiographique, que vous êtes dans les livres autant d'éclats de vous-même, ok, dispersé peut-être, et plein de versions de vous-même, mais toujours une personne unique au moment d'écrire, au moment de se mettre au travail, Maggie Nelson?
J'adore entendre toutes ces archives, c'est vraiment très intéressant.
I feel like the same
Effectivement.
Writer, always,
j'ai l'impression d'être toujours la même auteur, pas la même personne.
For a long time in the United States, I think
pendant une longue période aux États-Unis, je crois que mes livres laissaient certaines personnes perplexes puisque chaque livre était très singulier au niveau de la forme et du contenu. Et mon agent me disait que les gens s'intéressaient à moi, mais dès que le livre suivant était présenté, ils disaient « Mais on veut le livre d'avant, pas celui-là, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai des livres qui parlent d'enquête, d'autres qui sont plus universitaires, qui parlent d'art. Pour moi, en fait, tous ces livres ont des obsessions similaires. Je vois beaucoup de liens entre mes livres. Et donc, finalement, pour moi, c'est un peu fortuit que ce soit Les Argonautes qui puisse avoir le plus large lectorat. Pour moi, c'était assez improbable, en fait. Tout le monde adore le bleu, n'est-ce pas ? Tout le monde envie de lire des choses sur la sexualité, la théorie du genre. Bon, j'ai l'impression que ce livre...
Somehow, people could then understand each of these, as you say, kind of like
en fait,
autobiographical
les gens pouvaient comprendre, comme vous le disiez, toutes ces expériences, ces obsessions autobiographiques qui viennent du même esprit, du même auteur. Et puis, tout à coup, dans un autre pays, d'autres personnes vont trouver d'autres choses fantastiques. Et c'est à ce moment-là que finalement ma carrière commence à prendre tout son sens et au lieu d'avoir des lettres de refus, eh bien, il y a des gens qui commencent à dire, eh bien, moi, j'écris une thèse sur les liens entre vos différents livres et ça, c'est très satisfaisant.
Mais ce sont des liens ou c'est un lien que dans lequel vous avez toujours eu confiance, ou Maggie Nelson, ça a toujours fait œuvre dans votre tête tous ces livres successifs et différents.
I mean, you know, we each contain multitudes, like
bien,
Walt
nous,
Whitman says, but
contenons des multitudes, comme le disait Walt Whitman, mais nous sommes également des personnes singulières.
I felt more shame that my interests are so repetitive than I
finalement,
have felt.
J'aurais honte que mes intérêts soient si répétitifs.
I'm just an impatient. I'm an impatient person who also
je
believes
suis quelqu'un d'impatient.
That each book, I have an almost supernatural
finalement,
belief that.
J'ai une sorte de conviction, un peu, une conviction qui veut que chaque livre est voué à exister, à avoir une existence dans ce monde, et que moi, mon travail, c'est de trouver le contenant approprié pour ce livre. Donc, généralement, je ne dis pas, j'écris un roman, j'écris un poème, je vais dire, eh bien, j'écris sur la couleur bleue et on va voir ce qui se passe.
Il se passe bleuet. Merci beaucoup, Maggie Nelson. C'est un livre publié aux éditions du Sous-Sol. Et puis, on trouve aussi en français Le Parti Rouge et Les Argonautes. Un grand merci à vous, Ina Kang.
Est-ce qu'elle est là, loin encore? Plutôt vers toi, ou plutôt vers le nord? Je regarde.
À la prise de son ce soir, c'était Stéphane Desmonts, à la réalisation Milena Hellig. Un grand merci à Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor, Lou Quevauvillier, Valentin Rémy et Jeanne Aléos qui mettent à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, le journal, 22h sur France Culture. Et quand vous voulez, franceculture.fr à la page de Par les temps qui courent pour la référence des archives, des musiques et même un petit abonnement au podcast. On vous dit à demain.
Il était là à quelques...